Bach. Tout le monde connaît l'histoire de la révolte de Korah contre Moshe Rabbeinu et ultimement contre Hachem. On va regarder d'un peu plus près ce qui s'est dit dans cette révolte. Il faut avoir présent à l'esprit que dans Pirkei Avot, on décrit la notion de machloket. Le mot machloket, c'est donc construit sur la racine chalak, chalek, partagé. Donc la machloket, c'est en fait une dispute ou une dissension ou quelque chose comme ça. Et donc, on présente la machloket de Korach comme étant une machloket qui est une machloket pour la machloket, si vous voulez. Pas du tout pour défendre, mais pour être différent, pour se couper des autres. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, pour commencer, on va aller sur le passouk Tetzain, dans le chapitre Tetzain. Et le passouk Yud Gimel, c'est-à-dire 16, 13, 14, quoi. Lire un tout petit peu plus tôt, un peu plus haut, dans le passouk Yud Bet 12. Vaishlach Moshe, Vaikra le Datan Velaaviram ben Eliav. Donc Moshe Rabbeinu a fait appeler Datan et Aviram, qui sont deux artisans très importants du groupe de Korach. Faut se rappeler que Datan et Abiram, ce sont les délateurs. C'est ceux qui avaient dénoncé Moshe en Égypte. Quand Moshe a tué l'Égyptien, il voulait tuer l'Hébreu, après avoir violé sa femme. Moshe avait vérifié que personne ne voyait ce qu'il faisait. Il a surtout regardé s'il n'y avait pas d'Égyptien qui était susceptible de le voir faire. Mais il y avait deux Juifs, en fait, deux Hébreux, disons, Datan et Aviram, qui l'ont vu et qui lui ont dit à un moment où il a voulu intervenir dans une dispute entre les deux, là, il leur a dit, est-ce que tu voudrais nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc, mon cher Rabbeinu a compris que il y avait des gens qui l'avaient vu, qui allaient le dénoncer. Il a tout de suite compris. Il a compris tout à fait que ils allaient le dénoncer, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Et donc la tête de Moshe était mise à prix. C'est pour cette raison que Moshe a dû fuir. Ces gens-là, ils accompagnent les Bnei Israël, ils accompagnent Moshe jusque dans tous les problèmes. Sont là à faire des problèmes et ça va durer jusqu'à ce qui va se passer dans cette paracha, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils disparaissent, ces deux-là. Alors, Moshe voulait il les a convoqués et ils lui ont dit Vayomru lo na'aleh, nous ne monterons pas. Et alors, ils disent Ameat ki elitanu me'eretz Mitzrayim. Est-ce que c'est peu ce que tu nous as fait monter d'un pays où coulait le lait et le miel? Les Hamitains pour nous tuer, nous faire mourir dans le désert, et Et tu veux encore nous dominer? Aflo el eretz zavat chalav vashevi atanu. Vatiten lanu nachlat sadeh v'charem. Haenea Tu nous as pas amené du tout vers un pays où coule le lait et le miel. Tu nous as pas donné en héritage des champs, des vignes. Est-ce que tu veux crever les yeux des gens? Nous ne montrons pas. Ça, c'est le texte lui-même. Alors, quand ils ont dit Lona allait, nous ne montrons pas, voulait dire on vient pas, tu nous convoques, on vient pas. Mais en disant Lona allait, Rachid dit, Piem Irshilam, Shein Laem et la Yerida. Ça veut dire quand ils ont dit on ne montera pas, Rachid dit, c'est presque un lapsus. On ne montera pas, ça veut dire tout ce qu'on fera, c'est uniquement de descendre. Et effectivement, ils vont descendre parce que quand ils vont être avalés par la terre, quand la terre va s'ouvrir pour Korach et eux, ils vont descendre. Et alors, le grand problème, c'est cette façon de présenter les choses. D'abord, au premier abord, ce qui frappe, c'est que la terre d'Eretz Israël, qui est caractérisée par chalav ou dvash, zavat chalav ou dvash, une terre où coule le lait et le miel. Bon, le miel, c'est le miel de date, bien sûr, c'est pas le miel des abeilles, mais ça coule, ça veut dire qu'il y aura abondance de lait et de miel. Déjà, l'idée que on caractérise un pays par le lait et le miel, c'est un peu étonnant. Le miel, on peut dire encore, le sucre, c'est une énergie, c'est nécessaire. Mais le lait qui coule, c'est quoi, le lait des vaches? C'est ça le caractéristique du pays, c'est un peu étonnant.
C'est la terre nourricière, donc le lait qui nous.
Oui, bon, c'est une nourriture, mais est-ce que le lait, a priori, c'est pas la. Si on veut parler du lait fondamental, c'est le lait maternel, c'est pas celui-là qui coule, c'est pas caractéristique du pays. Et le lait de vache, après, bon, alors il se trouve que il y a beaucoup de gens qui boivent du lait de vache. C'est pas sûr que à ce moment-là ils buvaient tellement du lait de vache, peut-être c'était. Alors peut-être c'est des chèvres. Est-ce que ça coule à flot d'abord et. C'est très étonnant, quoi, me semble-t-il, de caractériser ça par de caractériser un pays par le fait que le lait coule dans ce pays.
Quand on était enfant, on aimait beaucoup cette expression chalav de vache. Nous, on
Oui, bon, alors
traduisait.
évidemment, en français, c'est un petit jeu de mots. La voûte vache, ouais, l'élevage, mais bon, d'accord. Mais bon, à part le jeu de mots en question. Dans l'idée, la vérité, je ne comprends pas vraiment ce que c'est censé représenter, cette histoire de pourquoi ces deux choses. Je veux dire, alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler de l'eau, parce qu'en Eretz Israël, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de grand fleuve, il n'y a pas de. Bon, l'eau, c'est important, mais bon, c'est clair. Mais alors, étant donné que l'Eretz Israël est caractérisé de cette manière-là, la chutzpah de l'impudence de Datan et Aviram, ils appliquent ça à l'Égypte. Bon, est-ce que c'est peu que tu nous as fait monter du pays où coulait le miel pour nous faire mourir dans le désert? C'est-à-dire qu'il décrit l'Égypte comme étant le pays où coule le lait et le miel. La vérité, si on veut dire que c'est un pays, il y a un pays où il y a de l'abondance, si vous voulez, où c'est facile de manger, etc. C'est vrai qu'en Égypte, c'est beaucoup plus facile de manger qu'en Eretz Israël. En tout cas, avant le barrage d'Assouan, il y avait les crues du Nil, donc ils avaient en permanence de quoi manger, quoi. Le problème, le Nil leur assurait la survie, et donc l'Égypte, par rapport à la terre d'Israël, qui est une terre plutôt aride, en fait, c'est sûr que c'est plus agréable, ce point de vue-là, l'Égypte, que la terre d'Israël. Mais donc ça veut dire que, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils aient pris ça pour caractériser l'Égypte? C'est-à-dire qu'eux, ils disent, on regarde ce qu'on a devant nous. Devant nous, on avait un pays où, effectivement, on est esclave, on est ce qu'on veut, mais le pays était un pays où on avait à manger. Et maintenant, tu nous amènes, même pas dans un pays, tu nous amènes et on va mourir dans le désert. Pourquoi? Parce que on est après l'histoire des Meraglim. Donc, toute la génération à laquelle Moshe parle, bon, la génération adulte à laquelle Moshe parle, ces gens-là, ils vont pas entrer en Eretz Israël. Donc, d'une certaine manière, il y a dans le discours de Moshe, qui s'adresse à des gens et qui leur parle de ce qui va se passer en Eretz Israël, etc. C'est très étonnant parce qu'il leur parle de quelque chose qu'ils ne verront jamais.
Ils le savent.
Et bien sûr qu'ils le savent, ils ont été condamnés.
Mais on leur a dit que la
Oui,
terre est
oui,
sortie.
oui. Et après, ils disent, tu nous as même pas amenés. Tu nous as pas amenés vers un pays où coule le lait. Tu nous as pas donné un héritage de champs et de vignes. Donc qu'est-ce que tu nous racontes cette histoire? Est-ce que tu veux crever les yeux des gens, c'est-à-dire tu nous parles de choses, tu crois qu'on voit pas que ce que tu nous racontes, ça tient pas debout? Rachid dit, le problème c'est que dans cette phrase-là, ils disent, Vatitel lanu nachlat, et en vérité, il manque la négation. Il dit, tu nous as donné le sous-entendu des champs et des vignes. Mais en fait, peut le dire, tu nous as pas donné. Donc il manque la négation, il manque le lot ici. Alors Rashi dit, Adavar Moussav, Allo Amour le Mala. On est obligé d'aller chercher la négation bien plus haut. Aflo, elle est restante pour la boudoche. D'accord? Ça veut dire, là, même tu nous as pas amené dans un pays. Donc, il faut prendre le lot ici et il faut le descendre, enfin, quelques lignes plus bas. L'homme pour dire, lo eviotonu. Lo natatanu. Tu nous as pas amené et tu ne nous as pas donné champs et vignes. Tu nous l'avais promis et tu ne nous as pas donné. Donc en fait, tout ce que tu as fait pour nous, c'est que tu as décrété qu'on allait tous mourir. Voilà, donc ce que Rachid a lu. Le Sforno, il lit un petit peu différemment. C'est assez intéressant. Le Sforno, donc, il lit sur ce même passouk. Donc, le 14, Aflo el Eretz, etc., va titen l'anneau, avec la négation qui manque. Alors, lui, il traduit. L'odai, she'areta, she'areota l'anneau, ça n'est pas suffisant, ça n'était pas suffisant pour toi de nous faire du mal en nous sortant de ce pays, d'un pays où coulait le lait et le miel. Et la midbar, pour nous amener dans le désert. Igamata, metzachek banu. Mais tu te fiches de nous. Ata metzachek, tu te moques de nous. Chez Loéviatoun, parce que tu nous as jamais amené dans un pays, le pays dont tu nous avais parlé. Dvarecha, em keilu, natata lanu, ba, nachalat sade bakarem. Toutes les mitzvot dont tu nous parles, qui sont des mitzvot, qu'on va faire quand on arrivera en Eretz Israël. Tout ça, c'est, tu te moques de nous. Tu nous parles de des choses comme si on y était déjà, alors qu'on n'y sera jamais. Non seulement on n'y est pas, mais on n'y sera jamais. Quand tu nous donnes des mitzvot à Tluyot Baharetz, tu nous donnes des mitzvot qui dépendent de la terre, des mitzvot qu'on peut pratiquer seulement en Eretz Israël, Ve'amarta, et tu nous dis, lo t'chale persadcha, tu n'auras pas le droit de récolter la totalité du champ, tu devras laisser un coin du champ pour les pauvres, etc. Mais tout ça, c'est quoi cette histoire? On n'aura jamais de champ. De quoi tu nous parles? Keilu, kvar haita shelanu. Tu nous parles comme si cette terre était la nôtre. Comme si nous avions des champs et comme si nous avions des vignes. Est-ce que tu crois que tu peux nous crever les yeux pour qu'on ne voit pas que tu es en train de nous mener en bateau? Bon, donc il y a une dimension de moquerie, là, tu te fiches de nous en plus. Ah, le Rahim nous dit que, en fait, tout ce que tu nous racontes, là, c'est une espèce de chokhat que tu veux nous donner, tu essaies de nous acheter avec, pour qu'on arrête la marloquette contre toi. Mais ça va pas marcher parce que, ce que tu nous racontes, ça tient pas debout. Donc, il accuse Moshe de mentir pour les empêcher de former un parti qui va s'opposer à Moshe. Le Maharal, qui explique, donc, comme je vous ai dit, il y a un Maharal sur le Pirkei Avot, et le Maharal dit que ils ont créé un esprit de Machloket. C'est-à-dire, c'est Korar, c'est les gens qui veulent la Machloket. En fait, il y a deux sortes de machloquettes, il y a deux sortes de disputes. Il y a en fait une machloquette, c'est-à-dire une dissension éventuellement qui est passionnée, qui est ouverte. C'est un discours ouvert. Mais ça, voilà, moi je dis autrement, et de ce discours-là vont sortir des choses positives. Et puis il y a une machloquette qui est le fait de gens qui sont fermés sur leur perfection. Parce que ce que va dire Korah, il va dire Kol ha'eda kulam kedoshim. C'est-à-dire sa machloket, elle part. Il faut un argument à machloket. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour que quelqu'un sorte du lot, sorte de l'ensemble des Bnei Israël et qu'il les dirige. Il faut qu'il ait quelque chose que les autres n'ont pas. Il a fait une expérience enrichissante que les autres n'ont pas. Alors qu'est-ce que toi tu nous racontes que tu as de particulier? C'est qu'Hachem te parle. Ok, mais on a tous vécu ça. Au Sinaï, on a entendu Hachem nous parler. Les deux premières paroles, les deux premières des 10 paroles, elles ont été entendues directement d'Hachem. Donc il dit, si c'est ça ta kedusha, kadosh ça veut dire séparé, si c'est ça ta singularité qui te permet de nous diriger, elle vaut rien du tout, parce que kol ha'eda kulam kedosh. Tout le peuple, tout le monde a cette même kedusha qui a été donnée par le fait que Hachem nous a parlé directement. Donc, c'est vrai qu'il s'appuie, Korach s'appuie sur un fait. C'est vrai que les Bnei Israël ont entendu. C'est vrai que pendant un moment, ils étaient au même niveau que Moshe. Donc il dit, ok, c'est... Voilà, on est au même niveau que toi. Il n'y a aucune raison que toi, tu sois au-dessus de nous. Et alors, évidemment que Korach, il ne peut pas revendiquer le pouvoir pour lui, parce que lui non plus, il n'a pas de supériorité. Alors, la théorie qu'il va développer et avec laquelle il va entraîner d'autres gens, c'est on n'a besoin de personne. On n'a pas besoin d'un chef. Pourquoi? Parce qu'on est tous nos propres chefs. Hachem nous a parlé à nous tous. Donc cette chose extraordinaire qui nous singularise par rapport à tous les peuples, etc. Mais voilà, on est tous à ce niveau-là. Donc on n'a pas besoin d'un chef. Alors qu'est-ce qu'il va gagner, Korach? S'il n'y a pas de chef, et ce ne sera pas lui non plus, alors... Et en fait, bien entendu que Korach, il veut être le chef, il va pas. Alors, l'idée qu'il a, c'est que on va dire qu'on est tous égaux, mais il arrivera bien un moment où le clan Israël aura besoin d'argent. Et Korach était le plus riche de tous. Et ok, alors c'est moi qui vais donner l'argent, donc j'aurai le pouvoir. L'idée de dire on est tous égaux, mais l'idée derrière la tête, c'est qu'il y a un moment où nous, ceux qui disent « on est tous égaux », on prendra le pouvoir. Vous vous souvenez, c'était aussi ce que disait au moment de la construction de la tour de Babel, il y avait aussi cette idée qu'on est tous égaux. D'accord, tout le monde parle la même langue, tout le monde est au même endroit, etc. Tout le monde contribue à la construction, etc. Mais le Midrash dit que, à ce moment-là, Mitzrayim a dit à Poutre, c'est-à-dire l'Égypte a dit au Soudan, qui étaient probablement les grandes puissances de l'époque, on va laisser dire qu'on est tous égaux, mais comme on est plus intelligent que les autres, à un moment donné, il y aura des problèmes, et c'est nous qui résoudrons le problème, on aura le problème, on aura le pouvoir. Donc, il y a toujours, dans toute théorie soi-disant égalitaire, communiste ou autre, il y a toujours des gens qui disent « on est tous égaux, mais on finira bien par par être plus égaux que les autres ». C'est-à-dire on a quelque chose, on a ou de l'argent, ou on a de l'intelligence, on a quelque chose qui va nous permettre de prendre le pouvoir. Alors c'est ce que Korach a dit, et la seule personne qui a vu l'air dans l'affaire, c'est Madame Pellet. On Ben Pellet, la femme de On. Parce qu'avec Korach, il y avait encore, il y avait Datan, Aviram, et il y avait un bonhomme qui s'appelle On Ben Pellet. Et lui, il était un suiveur. Et donc, le lendemain, il allait aller avec tout le monde, participer à la révolte, quoi, contre Moshe. Et sa femme lui a dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et toi, de toute manière, t'as rien à gagner dans toute cette affaire. C'est une marloquette entre Moshe Rabbeinu et Korach. Si Moshe gagne, toi tu seras rien d'autre que ce que tu es aujourd'hui. Et si Kohar gagne, c'est pas toi qui vas prendre la place, c'est Kohar. Alors on a dit, il lui a dit, oui, mais je me suis engagé à aller avec eux. Il a dit, ça, je peux régler le problème. Et le Midrash dit que la femme de On, elle a découvert ses cheveux, et quand les copains de On sont venus le chercher, ils ont ouvert la porte, ils ont une femme qui avait les cheveux découverts, ils sont partis. Parce que ces gens qui vont se révolter contre Hachem, se révolter contre Moshe Rabbeinu, ils peuvent pas parler avec une femme qui a les cheveux découverts. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ces gens-là, a priori, ils sont pourris, mais ils sont des orthodoxes fanatiques, quoi. Mais ils n'y croient pas, quoi. Mais pour eux, les lois sont des lois et on les applique à la lettre. Il n'y a pas de.
Pourquoi vous dites pourris? Je ne trouve pas ça.
Ils sont pourris parce que c'est pas vrai du tout. Ils n'y croient pas à tout ça. Eux n'y croient pas. Ils n'y croient pas du tout que la Torah est minashamayim, etc. Bon, a priori, c'est comme ça que ça ressort. Parce qu'ils ne vont pas mourir. Sinon, ils vont dire, pourquoi est-ce qu'ils vont mourir de façon aussi terrible? C'est parce qu'effectivement, ils n'y croient pas. Mais la loi étant la loi, voilà, ils se plient à la loi. Et même, ils sont même prêts à renforcer la loi.
Et est-ce que c'est correct ce qu'elle a fait cette dame?
Pardon?
Est-ce que c'est correct?
Mais bien sûr que c'est correct. Elle lui a sauvé la vie.
Certes, elle lui a sauvé la vie.
Mais
est-ce qu'on peut sauver la vie en faisant une avéra?
Elle n'a pas fait d'avéra, elle. Elle s'est découverte dans sa tente. Elle n'est pas allée sur la place publique se découvrir. Dans sa tente, elle a le droit de se découvrir. Elle a compté qu'eux, ils allaient venir, ils allaient voir. Elle a calculé que elle a vu ce qu'ils allaient faire, mais elle n'a rien fait de mal. Elle n'a pas d'interdit de. Elle n'est pas obligée de se couvrir parce que des gens vont venir. Si on sait qu'ils vont venir, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, elle était chez elle. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que c'est pas simplement qu'elle lui a sauvé la vie. C'est qu'elle lui a montré que. Elle lui a évité de se révolter contre Hachem, de faire des gestes qui l'auraient condamné à mort aussi.
Donc les femmes dans la Torah, c'est pas la première fois que ça.
De quoi?
Que la situation est sauvée par des femmes. Je ne relève pas un problème féministe ni rien, mais c'est pas la première fois que les femmes dans l'ombre sauvent des situations.
Mais. Pourquoi vous dites que c'est pas féministe?
On a le droit de faire. Je ne prends pas de drapeau en vous disant ça. Je constate.
C'est la réalité.
Oui.
Mais on n'a jamais dit autre chose. Il n'y a pas de Géoula qui ne soit pas le fait des femmes. On est sorti d'Égypte par le mérite des femmes. L'histoire d'Esther, c'est bien le mérite des femmes. Yael, c'est les femmes. C'est très, très souvent les femmes.
Quand on dit qu'ils se révoltent contre Hachem, dans la mesure où leur intention, comme vous avez expliqué ça d'autres reprises, leur intention c'est de se rapprocher d'Hachem.
Alors cette idée que leur intention c'est de se rapprocher d'Hachem, c'est une grande discussion. Certains disent, et en particulier la lecture. Passélique et un peu kabbalistique, elle est dans le sens que vous dites. Eux, ils voient Korach comme un bonhomme absolument parfait. Sauf qu'il est en train de se tromper, mais il est parfait. Mais il se trompe. Bon. Il se trompe parce qu'il fait un procès d'intention à Moshe qui est faux. Mais lui, il est parfait.
Pourquoi on dit qu'il est parfait? Parce que quelque part, à partir du moment où il y a une marque coquette, il y a déjà un.
Non, mais justement. C'est nous qui disons ça, mais la lecture chassidique, c'est de dire, ils sont parfaits, ils font une marloquette. Si vous êtes certain que ce que vous dites est vrai, vous pouvez être obligé éventuellement de faire une marloquette. La machloket, elle est tout à fait reconnue. Dans Pirkei Avot, quand on dit que le côté mauvais de la machloket, c'est Korach ve'Adato, mais le bon côté, c'est Beit Shammai et Hillel. Beit Shammai et Hillel, ils sont aussi radicalement opposés les uns aux autres dans leur façon de prendre de voir le monde. Sauf qu'ils se faisaient confiance. Sauf que c'était pas. C'était bon. Je pense autrement. On a le droit de penser autrement. La halakha, elle doit être fixée. À ce moment-là, on peut penser autrement, mais dire, bon, je suis obligé. La halakha, elle a été fixée, disons, à la majorité. Voilà. Celui qui pensait pas comme ça, du point de vue de la halakha, il est obligé de se conduire comme ça, mais on n'est pas en train de lui dire, tu peux plus penser ce que tu pensais.
Ah, s'il avait raison, il n'aurait pas été puni,
Mais
finalement.
personne ne dit
Non,
qu'il avait
c'est que
raison.
les
Les
racines.
chassidim, ils trouvent qu'il était parfait, mais que c'était une erreur. C'est tout. Quelqu'un qui fait une erreur. Pardon? Mais justement, le problème, c'est que son erreur était telle qu'elle était inacceptable. Ça veut dire que c'est une erreur. Quand on dit qu'il était parfait, ça veut dire qu'il pensait vraiment, il était sincère. Ça veut dire il pensait vraiment. Et si vous voulez, l'histoire, elle commence parce qu'il y a une nomination. Il y a une nomination dans la tribu de Lévi, et lui, Korach, il pense que si on va d'après l'ordre de naissance, celui qui est nommé, ça aurait dû être lui. Et Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de nommer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de ne pas respecter les ordres de naissance. Et lui, il trouve que c'est un scandale. Il est très sincère et c'est difficile de. Est-ce qu'on peut lui opposer? C'est logique ce que tu dis. C'est vrai que ça devrait être comme ça, mais Hachem a d'autres raisonnements, mais on peut pas le savoir. On peut pas les expliquer. Hachem a pensé autrement. Enfin, Hachem a dit à Moshe autre chose. Et donc c'est faux. Tu dois l'accepter. Et lui, il l'accepte pas. Mais c'est pas quelqu'un qui. Si vous voulez, il n'est pas en train d'essayer de tromper, etc. En tout cas, pas d'après la version chassidique kabbaliste. Ici, dans ce qu'on a vu ici, si vous voulez, il faut travailler un peu pour pouvoir dire que, pour ne pas être scandalisé par le fait de dire Eretz Zavatra, la voûte vache, c'est l'Égypte. Nous, depuis tout petit, on a entendu que Eretz Zavatra, la voûte vache, c'est Eretz Israël. Alors maintenant, on arrive ici dans la parcha de Korach, et Korach dit, c'est l'Égypte, Eretz Zavatra, la voûte vache. Pardon? Non, mais Korach dit la même chose. C'est la même chose. Natan et Aviram disent comme ça, mais Korach, il est tout à fait d'accord, il est le chef de bande là-bas. Ils sont, chacun a sa pourriture ici.
Comment on peut soutenir
Excusez-moi, de Datan et Aviram, on ne dit jamais qu'il était des tzadikim. Oui.
comment est-ce qu'on peut soutenir que Korach était parfait, même si il soulève une marloquette qui peut s'entendre, le fait qu'il la maintienne jusqu'à la
Oui, mais je
destruction.
pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Quand ils disent que Korach était parfait, ils veulent dire que Korach était complètement sincère et il s'est embarqué dans cette affaire parce qu'il pensait qu'il avait raison. Parce que là, Korach, c'est un peu le bon sens. Bon, c'est le bon sens. La kdoucha de Moshe, d'où elle vient? De ce qu'Hachem lui parle. Bon, Hachem nous a parlé à nous aussi.
Son raisonnement peut être juste, c'est ça que
Pardon?
son raisonnement est juste. Selon
Non?
la donnée de départ est grande et l'hypothèse de départ est différente.
L'hypothèse de départ, je ne sais pas si elle est différente, mais
Mais
en tout cas,
il n'y croit pas finalement. C'est
oui,
faux.
alors comment est-ce qu'on peut ne pas y croire? Il faut dire que c'est Moshe qui l'invente.
Oui, voilà.
Parce que, et alors du coup, ça fait qu'il faut dire que la nomination de celui-ci plutôt que de le nommer lui, alors c'est du népotisme, voilà.
Oui, mais on voit bien que c'est tout est faux parce que Hachem a parlé au Israël pour deux paroles. Après, c'était plus
Oui,
possible.
mais ça, c'est pas un raisonnement parce que si tu veux, quand Hachem parle, c'est infini, donc si Hachem a parlé un seul mot, ou s'il a parlé tout un rouleau de la Torah, du point de vue de l'expérience, du point de vue de la Kedusha, je sais pas si ça se mesure en
Et le fait
quantité.
qu'ils soient dans une situation de leur limite et qu'ils soient obligés de recourir à Moshe Rabbeinu pour pouvoir prendre la parole d'Hachem, alors ça prouve bien que Moshe Rabbeinu a une supériorité très nette.
Oui, oui. Ils peuvent très bien dire, effectivement, on a été à ce niveau-là, on a ce niveau de Kedusha, mais bon, on peut pas la maintenir, mais c'est pas une raison pour que tu sois au-dessus de nous. On a atteint ce même degré de Kedusha.
C'est voilà, Moshe, Hachem l'appelle à tout moment, pas à tout moment, et eux, ils ont cette expérience, mais effectivement, puisque Hachem les a élevés pour être, je n'ose pas dire à son niveau, mais parler à quelqu'un, il les a élevés, donc ils ont été élevés. Non, je comprends, toi, tu ne donnes pas raison, je ne me permets pas, mais je comprends. Après, il y a eu du personnel, je pense qu'au départ, le raisonnement était bon et tout ça, mais après, enfin, j'en sais rien.
Mais Rav, le fait de penser comme ça, c'est ne pas reconnaître que Hachem dirige le cas, puisque tout se fait via
Oui, mais
lui.
le problème, c'est de ne pas reconnaître que qui est-ce qui dit que c'est Hachem? C'est Moshe.
C'est pas Hachem qui met en doute. C'est qui met dans
Si, mais
c'est
ils disent c'est Moshe qui a décidé tout seul.
Donc c'est pas Hachem, c'est Moshe qui a tenté un truc.
Oui, mais du coup, ça met en cause toute la relation avec Hachem, quoi. Quelque part. Alors ça c'est la lecture donc on a lu le Sforno, le Or HaChaim, le Maharal sur la Machloket et le Rav Nachman de Breslav il dit ici les choses de la manière suivante en fait il dit lui son modèle c'est le modèle qu'on utilise dans la Kabbalah pour décrire le fonctionnement du monde, la création, etc. Ça veut dire que l'idée, vous connaissez l'idée, c'est que on dit que Akadosh Baruch Hu, il remplissait le monde, si avant la création. Il était partout, il n'y avait que lui. Et donc, en fait, il s'est contracté pour laisser un espace libre, je le dis grossièrement comme ça, pour laisser un espace libre dans lequel, à travers le langage, en fait, on peut projeter un monde qui est analogue au nôtre. Et évidemment, dit Maharal, dit le Rav Nachman, si tout le monde pense la même chose, alors, il n'y a pas de place pour la création de nouveaux mondes, en fait. Donc, le projet de Chazal, c'est justement de créer des mondes de ressembler à Hachem. Hachem crée des mondes, eh bien, les hommes, donc les Chachamim, veulent aussi créer des mondes. Et pour ça, il faut de l'espace. Et en fait, le rôle de la Machloket, c'est de mettre au monde, justement, des mondes inédits. Alors, cette gestation des mondes, elle nécessite de l'espace. Et c'est quoi l'espace? C'est une distance qui est irréductible entre les différents individus. Korach, il est complètement allergique à de tels espaces où quelque chose d'autre peut émerger à de tels espaces. Il veut pas que quelque chose d'autre puisse émerger. Pour lui, c'est tout continu, c'est complètement. C'est-à-dire, il est entièrement digne, incapable. Il n'y a pas de désir chez, de place pour le désir, pour l'imagination, pour créer des mondes. Et chez, dit le Rav Nachman pour Korach. Et c'est ça le côté complètement stérile. C'est-à-dire qu'il lui manque, en fait, il manque à Korach. Il lui manque une conscience de ses propres manques. Il manque une conscience du vide qu'il y a en lui. C'est ce qu'il comprend pas. Il n'arrive pas à accepter cela. Il peut lui manquer quelque chose. C'est la perfection. Kola eda, kulam kedushim, on est tous égaux, etc. Donc, il peut rien y avoir. C'est si vous voulez, la gravité de la position de Korach. C'est que c'est complètement statique et complètement stérile. C'est-à-dire, ça peut déboucher sur rien du tout. C'est-à-dire, une fois qu'on aura épuisé les choses, ben c'est tout. Comme il ne se crée rien de nouveau, ben ce sera fini. Et donc, il n'y a pas de vie, en quelque sorte, réelle dans le monde de Korach.
Et ce qui pense généralement, cet espace, il le trouve où? Le premier espace, c'est Hachem qui s'est contracté.
Hachem a créé de l'espace, et nous, sur ce même modèle, nous aussi, on crée de l'espace. C'est-à-dire, on fait des machloquettes, mais pas. Une machloquette, justement, il laisse de l'espace à l'autre. C'est-à-dire, tu peux t'exprimer complètement, même si je ne suis pas d'accord avec toi, ouais. Il y a de l'espace. Et c'est dans cet espace-là que la Torah se développe, en réalité. Ouais. Ils disent que quand il y a deux personnes qui étudient, ce qu'il y a entre elles, entre ces deux personnes, ben, il y a la présence divine. C'est-à-dire, il y a la capacité de créer d'autres choses, des nouvelles choses. C'est cette idée d'une recherche d'une dynamique, si vous voulez, plutôt qu'un truc complètement statique. C'est ça le problème qu'on a avec, que Korach pose. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est obligé d'inviter Korach on va demander à Hachem de trancher visiblement entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils savent très bien que si c'est pas vrai, s'ils sont pas, ils risquent leur mort, ils risquent la mort, si en allant apporter des ktorets alors que normalement ils devraient pas le faire, non, ils y vont tous, enfin ils y vont tous. Les gens de Korach vont aussi apporter de l'encens, et brûler de l'encens, alors qu'ils savent qu'en ce faisant, ils risquent leur peau. Tellement ils sont sûrs de leur affaire. Non, parce qu'ils pensent qu'ils sont contre Hachem, ils sont contre la lecture que fait, la lecture d'Hachem que fait Moshe Rabbeinu. Pour eux, Hachem, il a créé un monde et puis il est statique complètement, il est ce qu'il est.
C'est déjà une honnêteté, s'ils sont vrais.
Honnêteté, ils sont sincères, oui.
Voilà, ils sont sincères.
Oui, mais ça, on le sait, c'est ce qu'on a dit.
Oui, c'est un crime, c'est de s'être trompé.
Le problème, c'est que. Oui, c'est ça, c'est que leur, alors pourquoi c'est grave? C'est parce que leur erreur, si on veut, c'est de opposer un modèle qui est mortel, quoi, en fait. Puisqu'il n'y a pas de renouveau, donc, c'est fichu. On va épuiser les ressources et terminé.
Fabriquer de la différence, c'est créer des mondes.
Pardon?
Fabriquer de la différence, c'est créer des
mondes. C'est ça, c'est créer des mondes. Et on voit très bien que, par exemple, quand le groupe de Korach s'est massé à la porte du Ohel Moed, et il y a eu la manifestation de la présence divine, Hachem a dit à Moshe et à Aaron, il leur a dit, Ibadlou mitoch Aïda, séparez-vous de ce groupe du groupe des gens de Korach. Va otam karig. Et moi, je vais les détruire complètement, immédiatement.
Donc Hachem les traite entre guillemets comme ceux de la tour de Babel, vous savez.
Donc, alors pas tout à fait. Donc, Hachem dit, il faut que les choses soient claires. Ça veut dire, Hachem pourrait bien évidemment tuer celui-là et celui-là et celui-là, même si entre les deux, il y a des gens qu'il faut pas tuer. Mais c'était nécessaire pour les hommes eux-mêmes se rendre compte que ils sont à distance, ils ont rien à voir avec eux. Mais à ce moment-là, dans le passouk 22, le jour du chapitre, Vayiplou alpnehem, ils sont tombés sur leur face, comme on dit en français. Donc Moshe et Aaron vont prier. Ils prient Hachem pour sauver les gens. Ils veulent pas qu'ils meurent. Et ils vont dire, verset 22. Alors, eux, ils ont traduit ici, tomber sur le face et dire, Ô Hachem, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme fauterait et tu t'emporterais contre toute l'assemblée. C'est-à-dire, Moshe et Aaron disent, mais finalement, tout ça, c'est la faute de Korach. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes sortes de gens qui vont mourir à cause de Korach? Alors Hachem dit à Moshe, parle à l'assemblée et dis-leur, écartez-vous d'autour de la demeure de Korach, Datan et Aviram. Moshe se leva, il est allé vers Datan et Aviram, lui et tous les anciens d'Israël. Ils sont allés auprès d'eux et il a parlé à toute l'assemblée. Il leur a dit, alors éloignez-vous à présent des tentes de ces hommes pervers. Ne touchez à rien de ce qui est à eux, de peur que vous périssiez à cause de toutes leurs fautes. Les gens se sont levés, sont éloignés. Et Datan et Aviram, ils sont sortis avec morgue. Campés à l'intérieur, à l'entrée de leur tente avec comme les femmes, les enfants, etc. Alors, le problème, c'est que mon cher Avinu, il l'avait demandé, et là, il le redit, le fait que ces gens-là vont mourir, et qu'ils vont pas mourir n'importe comment, ils vont être engloutis par la terre. Alors, l'expression, elle est que la bouche de la terre s'ouvre, en quelque sorte. Donc, on a l'impression que eux qui veulent pas parler, Korach et Datan Aviram, ils veulent pas répondre après quand Moshe leur dit de parler, ils répondent rien, ils veulent pas. Alors ici, c'est où la bouche de l'un ou la bouche de la terre, quoi. Et Moshe a dit, voilà, je mets ça en jeu, en quelque sorte. Si ces gens-là meurent comme meurt tout homme, alors c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Mais si Hachem crée un prodige, si le sol ouvre sa bouche, les engloutit avec tout ce qui est à eux, qui descendent vivants dans le trou, la question, alors vous saurez que ces hommes ont défié Hachem. Et dès que Moshe a eu terminé de parler, le sol s'est effectivement ouvert et ils ont été engloutis. Et les autres, les Bnei Israël, ils se sont enfouis, ils se sont dit, c'est risqué pour nous aussi. Si ça se trouve, le sol va nous engloutir, nous aussi. Et il y avait les 250 hommes qui se sont ralliés à Korach, mais qui n'étaient pas Datan et Aviram. Eux, ils sont morts par un feu d'Hachem. Ils sont aussi morts, mais pas de la même manière. Alors, il se passe quelque chose de très étrange. Je vous ai dit, le critère, c'est que Korach et son équipe avaient apporté avaient apporté de l'encens dans un encensoir, Aaron aussi, et celui qui a été agréé, c'est seulement celui d'Aaron. Mais qu'est-ce que dit le pasouk juste maintenant? Dit à Elazar, ben Aaron, il ramasse les encensoirs du milieu du feu, donc, et jette le feu, mais tu gardes les encensoirs. Tu enlèves tu enlèves les matériaux qu'ils avaient mis, les parfums qu'ils avaient mis dans l'encensoir, mais les encensoirs sont devenus sacrés. C'est très étrange. Les encensoirs qui ont été amenés par des gens qui étaient en révolution complète. Ces encensoirs sont sacrés. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ils en feront des plaques laminées comme revêtement pour le Mizbeach parce qu'ils les ont offerts devant Hachem. Ils sont devenus sacrés. Ils seront un signe pour les Bnei Israël. Et c'est un signe, un rappel afin que nul étranger qui ne serait pas un descendant d'Aaron ne s'approche pour faire brûler de l'encens devant Hachem. Sinon, il sera comme Korach et ses gens. Et le problème, c'est que c'est pas fini. Vous pourrez penser que la démonstration est assez claire. Non, c'est pas fini.
Pourtant, il n'y a plus de combattants.
Tous les autres sont les combattants. Tout le peuple, le lendemain, ils disent à Moshe Aaron, vous avez tué le peuple d'Hachem. Vous avez tué des Juifs, vous avez tué les... C'est le peuple d'Hachem.
Et c'est pas. Puisque le feu est descendu, la terre s'est ouverte, pourquoi il dit ça? C'est flagrant, c'est pas eux.
Et ben. Et du coup, ils se sont attroupés contre Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron a été sauvé parce que grâce à la manifestation de la présence d'Hachem, mais ils étaient prêts à faire la peau à Moshe et Aaron. Alors, là, du coup, Hachem dit à Moshe, retirez-vous du sein de cette assemblée, je vais l'anéantir en un instant. Il y en a ras-le-bol, quoi. Ce peuple juif est insupportable. Hachem dit, je vais les détruire. Et du coup, c'est Aaron, Moshe qui dit à Aaron, prends l'encensoir, le tien, mets-y du feu que tu prendras sur le misbéach et pose l'encensoir là où il faut le poser. Et ensuite, amorce-le, qu'il était posé. Ensuite, tu le prends et tu l'amènes au milieu des Bnei Israël. Et c'est cette procédure-là qui va sauver les Bnei Israël. Mais avec cette histoire, il y a quand même 14 700 morts
On a l'impression que y a plus de marquette possible dans leur esprit, si ce n'est
Peut-être que
la foi.
ils ont peut-être pensé que, ok, ils se sont trompés, on va les sanctionner, mais pas les tuer. Ce qu'ils reprochent à Moshe et Aaron, c'est, pour Moshe en particulier, d'avoir tué le peuple. Si on les avait, ils ont bien compris que les autres s'étaient fourvoyés, on peut imaginer que voilà, on va les sanctionner, mais on va pas les tuer.
Je bute sur le fait que c'est pas Moshe qui les a tués. Pourquoi on tombe sur lui? Lui a dit que c'est pas bien ce qu'on fait, c'est
Non,
pas
non,
fait.
c'est lui, il a dit, Moshe a dit que si jamais ces gens-là meurent normalement, alors c'est pas moi, c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Donc il a demandé à Hachem de faire un miracle,
Oui,
de
donc.
faire en sorte que la terre s'ouvre. Donc c'est bien la demande de Moshe.
Oui, mais ça vient, c'est bien Hachem qui.
Ouais, mais bien c'est comme ça.
Non, mais
Quand
pas.
A tue B, il a pu le faire seulement parce qu'Hachem lui a donné l'énergie.
La discussion là, c'est parce qu'ils disent à Moshe, il n'est pas plus fort que nous, et comme nous.
De quoi? Non, mais avant, ça s'est terminé. Les gens, ils n'ont pas pris part. Ces gens-là,
Oui.
ce ne sont pas des gens qui ont pris parti pour Korah. Ceux qui sont là.
Oui.
Ceux qui étaient vraiment pour Korah, ils sont morts. Dathan, Abiram, les 250,
Alors,
ils sont
ceux-là, c'est
morts.
quoi? C'est même pas des adeptes?
Non, pas du tout. C'est les gens qui reprochent à Moshe et à Aaron d'avoir tué les Juifs.
Non, c'est trop, ça leur est trop dur à supporter. Ah, c'est comme un aveuglement, ça.
Pardon?
C'est un aveuglement, ça.
Voilà, c'est nous on est assis ici, donc pour nous c'est clair.
C'est comme c'est ici,
Le
là.
problème, comme on a vu, ils ont tort, mais c'est un tort. Le tort, c'est de ne pas avoir compris que le bon sens n'est pas plus fort que la décision d'Hachem. Que les décisions d'Hachem ne sont pas rationnelles. Elles sont pas compréhensibles avec un esprit humain, par un esprit humain. Des fois oui, des fois non, mais donc, elles sont jamais vraiment compréhensibles. Parce que des fois, c'est comme si un hasard, quoi. C'est presque un hasard qu'on a compris ce qu'Hachem a dit, là. Mais là, ils ont pas compris.
Est-ce que c'est pour ça que je pensais que ma rapport me dit que non, mais je ne comprends pas
Vous pensez
pourquoi.
quand même, d'accord.
Non, non,
Voilà, vous
c'est
voyez,
déjà.
c'est comme
Oui, à
ça.
part vous
Je vous ai dit que
m'expliquer.
c'était comme ça, vous ne croyez pas.
La seule
Vous
chose
dites, ah
qui
ouais,
m'a donné
d'accord, bon.
l'autorisation, puis cet homme
J'ai
qui
pas le pouvoir, d'accord, ok.
parce que dans la tour de Babel, vous avez dit que c'est impossible qu'il continue, vu le débat qu'ils avaient soulevé, c'était impossible qu'il continue à vivre. Et moi, dans la petite tête, j'avais. Et lui, que c'était, vous avez contaminé tout le monde, quoi. C'est impossible qu'il y ait ces deux situations en même temps.
Mais on les a pas tués. À
Babel,
Tour de
c'est là.
Babel, ils n'ont pas été tués.
Et ils sont morts comment?
Ils
Ils
n'ont
sont
pas
partis comment?
mort.
Ils se perdent
Ils ont
sur
été
les villas.
dispersés.
Il y a des villas. Parce que là, je ne sais pas. Parce que là, si vous voulez, je vois cette même chose de.
Mais
C'est.
ici, c'est pas comme ça. Ici, ils
Non.
sont morts.
Non, mais c'est le fait. Ils ne peuvent pas vivre. Alors, un, ils avaient pas prié, c'est une manière de les tuer, mais
Non, c'est pas une manière de les tuer. C'est une manière de, c'est
ils
pas
vont
du
se
tout.
perdre.
C'est une manière de ne pas les laisser s'organiser contre Hachem. Que l'organisation de l'humanité tout entière, c'est pour faire la volonté d'Hachem. Et cette organisation, elle a déjà existé, mais contre la monarchie. Ce que nous, on attend à la fin de l'histoire, ça a déjà existé au début de l'histoire, mais dans le négatif. Et c'est toujours comme ça. Ça commence toujours par le négatif. La première notion de Eda, communauté témoignante, d'accord, c'est qui? C'est les 10 explorateurs. Négatif. Après, on prend un minyan, 10 personnes. C'est ça le modèle.
Par rapport aux encensoirs, est-ce qu'il y a un petit bouche à chaîne qui est fait avec ces encensoirs pour qu'on les conserve?
Voilà, on avait déjà c'est la deuxième fois qu'il y a des problèmes avec les encensoirs. Enfin, c'est pas vraiment les encensoirs, mais il y a aussi un problème. Il y avait eu un problème avec les miroirs des femmes. Et mon cher Abénou, il voir le miroir, c'était la séduction, etc. Et Hachem a dit à Moshe, pas du tout. Ça a sauvé les Bnei Israël, ça. Et donc, on prend les miroirs, c'était du métal, quoi. Et on va laminer et on met une couche de ce cuivre-là sur le misbéach. Pour protéger le misbéach. Ça, c'était avec les miroirs des femmes.
Ça, c'est le pire.
Hein?
C'est pour le pire, le miroir des femmes.
Oui, enfin, Kior ou là. Peu importe. En tout cas, on le met au service du Beth-Amikdash. Et ici, on va prendre les encensoirs, on va laminer le métal, et on va en faire quelque chose au service, ici même du Mizbeach. Je sais pas ce qui c'est plus haut, le Mizbeach ou le Kior, enfin, c'est pas la même chose. Mais, je suis pas sûr que là-bas, il n'y avait pas aussi au Mizbeach, mais, donc, pourquoi? Le texte dit, c'est parce qu'ils ont été sanctifiés, parce qu'ils ont été présentés devant Hachem. Donc, ça veut dire que si un mécréant ou un idolâtre présentait quelque chose devant Hachem, ça ne deviendrait pas Kadosh pour autant. Et là, c'est eux qui l'ont fait. D'accord? Ils ont été sanctionnés, tout ce que vous voulez. Mais il y a de la Kdusha. Ça veut dire que dans leur démarche, il y avait quand même suffisamment de Kdusha pour qu'on puisse récupérer le métal. Sinon, la chose ne peut pas être récupérée pour la mettre sur le misbéach. C'est impensable.
Et c'est dans le sens où ils ont fait ressortir,
Pardon?
c'est dans le sens où ils ont fait ressortir une.
Oui, alors, effectivement, ça a montré, ça a permis à Hachem de montrer son choix. C'est comme ça. Alors, les Bnei Israël, ils comprennent vraiment rien du tout. D'accord. Ils ont menacé donc de tuer mon cher Aaron. Alors, Hachem dit, OK, Aaron a arrêté le fléau. Ça coûte quand même 14 700 morts. Et du coup, on va faire maintenant une autre opération dans laquelle Hachem va montrer qu'il a choisi Aaron. Avec les fameux bâtons qui vont fleurir, etc. Donc seul celui d'Aaron va fleurir. Hachem dit à Moshé, après qu'on ait bien vu que seul le bâton que Aaron avait choisi et pas les autres a fleuri, Hachem a dit, tu reprends le bâton, on va le garder, et pour sans arrêt rappeler ce qu'il appelle ici les rebelles, cessent leur plainte à mon égard, dit Hachem, et qu'ils ne meurent pas. Alors maintenant, ok, Moshe fait ça, mais c'est pas fini. Alors les fils d'Israël s'adressent à Moshe et disent, voilà, on va tous mourir. On est perdus, on est tous perdus. Parce que si on s'approche un peu trop près du Mishkan, on meurt. On n'arrête pas de mourir. C'est-à-dire, on est dans un monde où on n'arrête pas de mourir. C'est toute cette histoire de Mishkan, de Kedusha, etc. C'est insupportable. Alors que ça a été tout à fait réglé. C'est les décisions. On sait très bien, on avait déjà vu déjà dans les parchéot précédentes, qui doit faire quoi avec exactement le Mishkan. Alors du coup, certains expliquent que quand Akadosh Baruch Hou a fait la démonstration qu'il avait choisi à Aaron, pourquoi on n'a pas fait cette démonstration plutôt que l'histoire des encens, de l'encens, des encensoirs? Parce que là, ça s'appelle pas avoir approché un feu qu'on n'avait pas prescrit, donc il n'y aurait pas eu d'avéra, donc il n'était pas nécessaire de les tuer. Donc ils se disent, à chaque fois on choisit le chemin qui nous tue, quoi. Donc leur idée, c'est, alors ils ont inventé une nouvelle loi, que si on s'approche du tabernacle, du Mishkan, on va mourir. Ça peut toujours nous arriver. Le Mishkan, c'est en plein milieu du camp. On peut peut-être venir trop près du Mishkan et ça va nous coûter la vie. On n'arrête pas de mourir. Ça veut dire qu'ils pensent que ce système avec des morts, quand on fait pas exactement ce qu'il faut, c'est trop dur, quoi. Alors qu'on aurait pu faire ça en douceur, en manifestant que Hachem choisit Aaron. Et non, c'était clair pour Korah aussi. Et donc, ça termine là-dessus. Mais la Torah, elle finit par dire, voilà, ben, ils pensent qu'on risque de mourir tout le temps. Alors, il n'y a pas de... Il reste avec une question, quoi. En fait, quand Yaakov a voulu acheter la Bora d'Essav, à cette époque-là, être Bechor, être premier-né, c'était être Cohen, quoi, si vous voulez. Alors, Yaakov, quand il lui a dit ce que c'était, il a mis en évidence, tu sais, bon, alors c'est un travail très élevé et tout, mais si on se trompe, là, on peut mourir. Alors c'est un truc dangereux. Et du coup, Essa va dire, mais moi je vis dangereusement, je n'ai pas besoin de chercher encore des situations où je risque encore ailleurs ma peau, quoi. Donc bon, curieusement, Jacob est présenté comme la Avodah d'Hachem, comme quelque chose de, au lieu de mettre l'accent sur le côté élévation, etc., il lui a dit, que c'était très dangereux. Mais là, on voit que les Bnei Israël, ici, ils refusent. Ils disent, c'est pas possible. Tout ce qu'on fait ici, ça entraîne la mort, quoi. Donc, une Torah qui est une Torah de vie, c'est étonnant qu'elle débouche si souvent sur la mort. Alors, bien sûr, la mort, c'est seulement dans le cas où on ne fait pas ce qu'il faut. Mais ils en arrivent à dire des choses un peu idiotes, genre, bon, mais même si on fait pas volontairement quelque chose qu'il faudrait pas faire, etc., si on s'approche du Mishkan, on risque de mourir. Même par erreur, quoi. Et là-dessus, il n'y a pas de réponse dans le texte. Oui, c'est comme ça. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a une... La avoda, curieusement, c'est quelque chose qui peut nous élever énormément, mais en même temps, on risque sa peau dans la avoda. La sous-tribu de Kehat, quand ils transportent quand les Bnei Israël bougeaient dans le désert, qu'il fallait transporter le Aaron, par exemple, s'ils le découvraient, il est dans une couverture, ils ne le voient pas, eux. Ils transportent quelque chose de complètement emballé. Et ils venaient à le découvrir, ils meurent.
C'est embêtant,
Ah non?
c'est embêtant de dire ça pour moi.
Alors c'est un peu... Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'effectivement, si on ne fait pas exactement les choses comme elles doivent être faites, il y a pas mal de situations où on meurt. Mais il y a les situations de karet, ça veut dire on n'a pas mangé le korban à temps et on le mange un peu plus tard, karet. On n'est pas mis à mort, mais enfin, on est passible de mort. Donc, il y a quand même beaucoup de situations. En fait, il y a en la Torah 36 cas standard de carette, de peine de carette, de peine de retranchement. C'est beaucoup. Comme si la peine de mort, a priori, elle vient nous dire la gravité de la chose. Elle vient pas. C'est pas tellement, comme on dit toujours, que les onshim, les sanctions dans la Torah, c'est pas des vengeances. C'est pas, voilà, tu transgresses, voilà le prix à payer. C'est pas ça qu'il s'agit. C'est toujours quelque chose qui vient réparer la faute qui a été faite. Donc ici, quand on meurt, c'est pas que une sanction. Voilà. T'as fait ça, tu encours la peine de mort. Tu encours la peine de mort parce que il faut réparer, et voilà la façon dont on peut réparer. Alors qu'il y ait des situations dans lesquelles on ne puisse pas réparer de son vivant, quoi, quelque part. Il faut mourir pour réparer. C'est difficile à comprendre. Pourquoi la réparation ne se fait pas dans ce monde-ci? Si tu dis qu'il faut mourir pour réparer, alors bon, c'est en mourant qu'il y a réparation. Compliqué à entendre. Vois pas d'autres explications, si on peut appeler ça, que de dire que c'est la façon de dire que quelque chose est archi important. Mais peut-être il faut pas l'entendre en disant que si tu fais cette faute-là, la vie ne vaut plus rien, quoi. Ne vaut plus d'être vécue. Non, ça veut dire qu'il y a une réparation et on paye de cette manière-là. Des fois, le prix qu'Hachem demande, il peut nous paraître assez énorme. Mais on a toujours devant nous l'exemple d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a fait une alliance avec Abimelech. Après avoir fait cette alliance avec Hachem, Hachem lui a dit, ben c'est comme ça que le Midrash explique, de quoi? Tu fais une alliance avec Abimelech et tu mets quasiment cette alliance sur le même plan que l'alliance que tu as faite avec moi. Alors comment on répare? Alors la réparation, c'est tu me donnes tout ton futur. C'est-à-dire, tu me donnes Yitzhak. Ton futur, c'est Yitzhak. Tu sacrifies Yitzhak. Ben, tu me le donnes. Donne ton futur. C'est ça la réparation.
C'est bon.
C'est pour ça que je vous le dis. C'est vrai, c'est, ça a l'air très, c'est compliqué, parce qu'a priori, si je te donne mon futur, j'en ai plus. Et si j'ai plus de futur, alors tout ce que, toutes tes promesses et tout ce que tu m'as dit, ça va pas, ça. C'est-à-dire, la réparation, c'est quoi? De ne pas avoir droit, montrer que, ouais, ok, alors je suis disqualifié. Toutes les promesses qui m'ont été faites, j'y ai pas droit. Je me suis disqualifié pour recevoir toutes les promesses que tu m'as faites. S'il n'y a plus de futur, donc, comme les promesses, elles portaient sur le futur.
Pourtant, les promesses d'Hachem, elles sont hors temps.
Oui, mais c'est pour ça que Yitzhak n'est pas mort.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas une opposition?
Non, ça veut dire qu'il faut que il faut qu'Abraham comprenne que ce qu'il a fait, bon, ça annule tout. Mettre une alliance avec Hachem, enfin, mettre une alliance avec un homme, avec un idolâtre en plus, sur le même plan que l'alliance avec Hachem, ça montre que l'alliance avec Hachem, pour toi, c'est pas très important.
Et c'est obligé de dire que c'est sur le même plan que c'est avec
Bah, a priori, c'est marqué, Vayi c'est après ces choses ou cette parole-là, les paroles dont on parle, qui sont juste dites avant, c'est l'alliance avec Abimelech.
ce que je voulais souligner, c'était que quand même, Yaakov dit à Esav, comme si, enfin, c'est comme si ne t'approche pas trop de la chaîne parce que tu risques ta vie. C'est cette logique.
Et dans la Avoda, on s'approche beaucoup d'Hachem et donc on risque sa peau.
Cette logique.
Alors lui, il dit, mais moi, je risque ma peau tous les jours. Je me bats contre les animaux, je vole la femme des gens, donc leur mari peut très bien me faire la peau, etc. Donc, j'ai pas besoin de me donner encore des occasions de me faire tuer.
Mais cette logique-là, elle est dangereuse quand même. Elle est dangereuse parce que il m'est arrivé d'entendre des gens dire ne vous élevez pas trop parce que vous êtes.
Ben, si vous prenez le mot trop au sens, pas au sens d'aujourd'hui, ou au lieu de, on l'utilise trop pour très, mais au vrai sens, trop, oui, si on en fait trop, c'est risqué. Trop, c'est trop. L'excès est toujours mauvais, même l'excès dont on croit être le bon sens, la bonne direction.
Et qu'Adam attend à lui faire plus pour acheter.
Oui.
C'est là le premier problème.
C'est une des explications, hein. Mais,
Mais non, moi, je ne comprends pas il attend de nous, il attend qu'on soit très redressé, qu'on se développe un maximum.
mais
Et
dans un cadre bien précis. Voilà, on va s'arrêter là.
je dois trouver ma liberté à l'intérieur de ce cadre. Parce que je m'aliène à ce cadre. Je l'accepte et j'aliène, je ne sais pas quoi de moi, mais j'aime quelque chose. Et en même temps, c'est ma liberté que je vais trouver là-dedans, en faisant ça. Je ne sais pas raisonner du temps avec ça.
Oui, allez.
Donc, il faut que je trouve un sens, parce que si je vais réfléchir.